de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Voici deux nouvelles de Vladimir Nabokov. Ici, on parle russe. Une boutique, un buste, celui de M. Vladimir Oulianov, buste cassé au marteau, un coup de poing qui endort. Un tchéquiste emprisonné et privé de politique. Combien d'années va-t-il rester ici ? Il sera remis en liberté le jour où les bolcheviks crèveront. Autre nouvelle, la sonnette. Un gâteau d'anniversaire, des bougies éteintes, et donc une sonnette qui retentit. Qui est à la porte ? Deux nouvelles de Nabokov, première diffusion sur France Culture le 28 avril 1999.
Deux nouvelles de Vladimir Nabokov. Ici, on parle russe et la sonnette. Lue par Éric Genovese et François Martouret. Réalisation Anne Lemaître.
Le débit de tabac de Martin Martinitch est situé dans un immeuble à l'angle d'une rue. Ce n'est pas pour rien que les débits de tabac nourrissent un certain penchant pour les angles de rue. Le commerce de Martin Martinitch est animé. La vitrine n'est pas grande, mais bien agencée. De petits miroirs égal étalage. En bas, des paquets de cigarettes bariolées qui portent des noms dans ce sabir international de magazines qui sert également pour les noms d'hôtels, sont dans des ornières de velours bleu. Et un peu plus haut, de légères boîtes découvrent des rangées de cigares. En son temps, Martin Martinitch avait été un propriétaire bien heureux. Il marque mes souvenirs d'enfance par un tracteur extravagant. Son fils Petia et moi avions attrapé ensemble la maladie de Meinheide et la scarlatine, de sorte que maintenant, après 15 années bourrées de tout et de n'importe quoi, il m'est agréable de passer devant le débit de tabac à l'angle de rue animé où Martin Martinitch tient boutique. D'ailleurs, depuis l'an dernier, ce ne sont pas seulement les souvenirs qui nous lient. Martin Martinitch a un secret. Et j'ai été initié à ce secret. Je lui demande en chuchotant, « Alors, tout va bien ?» Lui, d'une voix tout aussi basse, me répond en se retournant, « Oui, grâce à Dieu, tout est calme. » Ce secret est complètement inouï. Je me souviens que je partais à Paris, et la veille de mon départ, j'étais resté jusqu'au soir chez Martin Martinitch. Cette journée est restée dans ma mémoire. Voici pourquoi. Soudain, Petia était arrivée de la rue, hirsute et noire de rage. La nièce de Martin Martinitch s'apprêtait à retourner à Moscou pour voir sa mère, et Petia arrivait tout juste de la représentation diplomatique. Alors qu'un des représentants lui donnait un formulaire, un autre, qui avait visiblement des liens avec la direction politique de l'État, avait chuchoté de façon à peine audible « Qu'est-ce que c'est que cette racaille blanche qui traîne par là ?»« J'aurais pu en faire de la bouillie, » dit Petia en frappant son poing dans sa paume. « Mais malheureusement, je me suis souvenu de ma tante de Moscou. » « Tu as déjà quelques petits péchés sur la conscience ?» gronda tendrement Martin Martinitch. Il faisait allusion à un incident extrêmement drôle. Peu de temps auparavant, le jour de sa fête, Petia s'était rendu à la librairie soviétique dont la présence gâche une des plus charmantes rues de Berlin. On y vend non seulement des livres, mais toutes sortes d'objets artisanaux. Petia avait choisi un marteau décoré de coquelicots et orné d'une légende adéquate pour un marteau soviétique. L'employé avait demandé à Pétia s'il désirait acheter quelque chose d'autre. Pétia avait dit « Oui, certainement ». Et il avait hoché la tête en direction d'un petit buste en plâtre de M. Oulianov. Pour le buste et le marteau, il avait payé 15 marques et immédiatement après, sans dire un mot, il avait cassé, à l'aide de ce marteau, le buste sur le comptoir, de sorte que M. Oulianov s'était fracassé. J'aimais ce récit. Comme j'aimais, par exemple, les gentilles blagues de mon inoubliable enfance qui me réchauffent l'âme. Alors que j'écoutais Martin Martinitch, je regardais Pétia en riant. Mais Pétia haussa d'un air maussade les épaules et se renfrogna. Martin Martinitch, qui avait fouillé dans une boîte, lui tendit la cigarette la plus chère de la boutique. Pétia, cependant, ne retrouva pas sa bonne humeur pour autant. Je revins à Berlin 6 mois plus tard. Un dimanche matin, j'eus envie d'aller voir Martin Martinitch. Les jours d'ouverture, on pouvait aller chez lui en passant par la boutique, car son appartement se trouvait juste derrière. 3 pièces et une cuisine. Mais ce dimanche matin, la boutique était fermée, bien sûr, et la vitrine avait baissé son mésail grillagé. À travers le grillage, je jetai un coup d'œil sur les paquets rouges et dorés, les cigares basanés, la modeste inscription dans un coin. Ici, on parle russe. Je songeai que l'étalage était devenu plus joyeux, en quelque sorte, et je traversai la cour pour me rendre chez Martin Martinitch. Chose étrange, Martin Martinitch lui-même me parut encore plus joyeux, plus alerte, plus lumineux qu'auparavant. Quant à Pétia, il était impossible de le reconnaître. Ses mèches de cheveux gras étaient ramenées en arrière. Un sourire large et légèrement timide ne quittait pas ses lèvres. Il était saturé de silence et une joyeuse anxiété, comme s'il portait en lui une charge précieuse, amollissait tous ses mouvements. Il y avait quelque chose de nouveau et pour moi d'énigmatique dans la conversation du vieil homme. Nous parlions de Paris, des Français, et soudain il me demande « Dites-moi donc, mon petit, quelle est la plus grande prison de Paris ?» Je répondis que je l'ignorais et je me mis à parler d'une revue de music hall de là-bas où l'on voit des dames peintes en bleu. Ben « Voilà autre chose, » dit en m'interrompant Martin Martinitch. « On prétend, par exemple, que les femmes emprisonnées grattent le plâtre pour s'en blanchir les joues ou le cou. » Pour confirmer ses dires, il alla prendre dans sa chambre un gros volume d'un criminaliste allemand et y trouva le chapitre consacré à la vie quotidienne en prison. J'essayais de changer la conversation, mais quel que soit le sujet que je choisisse, Martin Martinitch y revenait par des détours subtils, de sorte que nous nous retrouvions soudain en train de réfléchir à l'humanitarisme de l'emprisonnement à perpétuité comparé à la peine capitale ou bien aux ruses qu'inventent les criminels pour s'évader. J'étais perplexe. Martin Martinitch, qui avait enfoncé ses 5 doigts dans sa barbe broussailleuse, fit luire vers moi un œil roux et torve, et soudain, quelque chose se brisa en lui. Il donna un coup de poing sur la table et s'adressa à son fils. « Je n'en peux plus, Pétia. Je vais tout lui dire, sinon je vais exploser. » Pétia acquiesça d'un signe de tête sans rien dire. « Je vous préviens. » Je vais vous faire part d'un secret. Un secret tel que, à vrai dire, je ne sais si... Bon, attention, vous ne dites rien. Compris ? Et après s'être penché tout près de moi, m'inondant d'une odeur de tabac et de sa propre odeur puissante de vieillard, Martin Martinitch me raconta une histoire véritablement remarquable. C'est arrivé peu après votre départ. Un client est passé. Il n'avait visiblement pas remarqué la pancarte dans la vitrine. Il s'est adressé à moi en allemand. Soulignons cela. S'il avait remarqué la pancarte, il ne serait pas entré dans une petite boutique d'émigrés. J'ai tout de suite décelé en lui un russe d'après la prononciation. Et puis, il avait une trogne de russe. Bien entendu, je me suis mis à parler dans ma langue maternelle et je lui ai demandé le prix, la marque qu'il désirait. Il a été désagréablement surpris et il m'a regardé bizarrement. Il m'a dit assez insolemment « Comment avez-vous décidé que j'étais russe ?» Je lui ai répondu quelque chose sur un ton, me semble-t-il, plein de bonhomie et je me suis mis à lui compter des cigarettes. À cet instant, Petya est entré. Il a vu mon acheteur et a dit le plus calmement du monde « Quelle agréable rencontre !» Et alors, mon Petya s'approche tout près de lui et lui assène un coup de son gros poing sur une pommette. L'autre se fige. Comme Petya me l'a expliqué par la suite, il n'en est pas résulté un simple knock-out comme lorsque un homme s'affale aussitôt par terre, mais un knock-out d'un genre particulier. Petya, en fait, lui avait donné un coup à retardement et l'autre s'était endormi debout. Et il semblait effectivement dormir debout. Ensuite, il s'est mis à se pencher lentement en arrière, comme une tour. Là, Petya est allé derrière lui et l'a attrapé sous les bras. Tout cela était absolument imprévu. Petya a dit « Aide-moi, papa !» Je lui ai demandé ce qu'il faisait, au juste. Petya a seulement répété « Aide-moi !» Je connais bien Petya et je sais que c'est un type sérieux, dur à la détente et qui n'estourbit pas les gens pour rien. Nous avons traîné l'homme, toujours évanoui, depuis la boutique vers le couloir et ensuite dans la chambre de Petya. Là, j'ai entendu la clochette. Quelqu'un était entré dans le magasin. Heureusement, bien sûr, que cela ne s'était pas produit avant. Moi, je retourne dans la boutique, j'abandonne la marchandise et ensuite, heureusement, ma femme est arrivée avec des commissions. Moi, sans rien dire, je pile dans la chambre de Petya. L'homme était étendu par terre, les yeux fermés. Et Petya était assis près de la table et regardait comme ça, d'un air songeur, certains objets comme ce grand porte-cigarette en cuir, une demi-douzaine de cartes postales indécentes, un portefeuille, un passeport, un vieux revolver, mais en état de marche apparemment. Il m'a aussitôt expliqué ce dont il s'agissait. Comme vous le devinez, j'en suis sûr, c'étaient les affaires retirées de la poche de cet homme, lequel n'était autre que ce représentant, vous vous en souvenez, Petya vous l'a raconté, qui avait ironisé sur la racaille blanche. Ouais, ouais, et à en juger d'après certains papiers, il était lui-même un membre, tout ce qu'il y a de plus vrai, du GPU. Bon, c'est bien, et je dis à Petya, tu as cassé la gueule à quelqu'un, avec ou sans raison, la question n'est pas là. Mais explique-moi, s'il te plaît, qu'as-tu l'intention de faire maintenant ? Apparemment, tu as oublié ta tante de Moscou. Et oui, je l'ai oublié, a dit Petya. Nous devons trouver une solution. Et on l'a trouvée. D'abord, on a dégoté une corde solide et on lui a bâillonné la bouche avec une serviette. Pendant qu'on s'occupait de lui, il a repris ses esprits et ouvert un œil. Il avait une trogne qui, vue de près, c'est moi qui vous le dis, était ignoble et stupide en plus. Des escarres sur le front, une petite moustache, le nez en patate. Après l'avoir laissé par terre, nous nous sommes confortablement installés dans le voisinage et nous avons entamé les débats du procès. On a longuement marchandé. On n'était pas tant préoccupé par le fait lui-même de l'offense, c'était un détail bien entendu, que par toute cette profession, si je puis dire, et ses agissements en Russie. Le dernier mot a été offert au prévenu. Quand on a dégagé sa bouche de la serviette, il s'est mis à gémir, à sangloter, mais il n'a rien dit, sauf « Vous allez voir, vous allez voir !» La serviette a été renouée et la séance a suivi son cours. Les voix ont tout d'abord été divergentes. Petya exigeait la peine de mort. Je trouvais qu'il méritait la mort, mais j'ai proposé de commuer cette peine en celle d'emprisonnement à perpétuité. Petya a réfléchi et il est tombé d'accord avec moi. J'ai ajouté qu'il avait commis des crimes, bien entendu, mais qu'on ne pouvait pas le prouver, que son travail à lui seul était un crime, que notre devoir consistait seulement à le mettre hors d'état de nuire et basta. Maintenant, écoutez la suite. Au bout du couloir, nous avons une salle de bain. C'est une pièce sombre, extrêmement sombre, avec une baignoire en fer blanchi. L'eau est souvent en grève, il y a des cafards. S'il fait si sombre dans cette petite pièce, c'est parce que la fenêtre est extrêmement étroite et située juste sous le plafond. Et en plus, juste en face de la fenêtre, à moins d'un mètre, il y a un robuste mur en briques. Et c'est donc dans ce réduit qu'on a décidé de maintenir le prisonnier. C'était une idée de Pétia. Bien entendu, au début, il a fallu installer la cellule comme il convient. On a d'abord traîné le prisonnier dans le couloir afin qu'il soit tout prêt quand on travaillait. Là, ma femme, qui venait de fermer boutique pour la nuit et qui allait dans la cuisine, nous a aperçus. Elle a été très surprise, même scandalisée. Mais ensuite, elle s'est rangée à nos conclusions. C'est une gentille épouse. Alors, d'abord, Pétia a déglingué la solide table qui était dans la cuisine. Il en a détaché les pieds et a cloué le plateau ainsi obtenu sur la fenêtre de la salle de bain. Ensuite, il a dévissé les robinets, il a emporté le calorifère qui servait à chauffer l'eau et il a mis un matelas dans la baignoire. Les jours suivants, bien entendu, on a introduit toutes sortes d'améliorations. On a changé la serrure, mis un cadenas, fixé du métal sur la planche de la fenêtre et tout cela, bien entendu, sans faire trop de bruit. On n'a pas de voisins, comme vous savez, mais il fallait malgré tout agir prudemment. Et on a obtenu une véritable cellule de prison où l'on a enfermé le collaborateur du GPU. On a défait les cordes, délié la serviette, on l'a prévenu que s'il criait, on allait de nouveau l'emmailloter et pour longtemps. Et une fois certain qu'il avait compris à qui était destiné le matelas placé dans la baignoire, nous avons fermé la porte à clé et nous avons monté la garde à tour de rôle toute la nuit. Depuis ce jour, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Je ne suis plus seulement Martin Martinitch, mais le geôlier Martin Martinitch. Au début, le prisonnier était si hébété par ce qui lui arrivait qu'il se conduisait calmement. Rapidement, cependant, il a retrouvé son état normal et quand nous lui avons apporté à déjeuner, il nous a accueillis avec une bordée d'injures. Je ne peux vous répéter la façon dont cet homme jurait. Je dirais seulement qu'il a mis dans les situations les plus curieuses ma défunte mère. On a décidé de lui enfoncer dans la tête quel était son statut juridique. Je lui ai expliqué qu'il resterait en prison jusqu'à la fin de ses jours, que si je mourais avant lui, je le donnerais en héritage à Pétia, que mon fils, à son tour, le transmettrait à mon futur petit-fils, et ainsi de suite, et qu'il deviendrait ainsi une tradition familiale, une relique de famille. J'avais d'ailleurs fait allusion au fait que, si contre toute attente nous devions déménager dans un autre appartement à Berlin, il serait ligoté, mis dans un coffre spécial, et il déménagerait le plus tranquillement du monde avec nous. Je l'ai prévenu qu'il ne serait amnistié que dans un seul cas, à savoir, il serait remis en liberté le jour où les bolcheviks crèveront. Enfin, je lui ai promis qu'on le nourrirait bien, bien mieux que la façon dont on m'a nourri quand j'étais emprisonné au GPU, et que, à titre de privilège exceptionnel, on lui donnerait des livres. Et en effet, jusqu'à présent, il ne s'est pas plaint une seule fois de la nourriture, me semble-t-il. Il est vrai qu'au début, Pétia a proposé qu'on le nourrisse de poissons séchés, mais il a eu beau courir partout, on n'en a pas trouvé à Berlin. Il a fallu le nourrir bourgeoisement. Le matin, à 8 heures tapantes, Pétia et moi nous entrons, nous posons près de sa baignoire une écuelle de soupe chaude avec de la viande et une miche de pain gris. Par la même occasion, on emporte le seau, un ustensile extrêmement subtil qu'on a inventé spécialement pour lui. À 3 heures, il reçoit un verre de thé et à 7 heures, à nouveau de la soupe. Ce système d'alimentation est calqué sur le modèle du système appliqué dans les meilleures prisons européennes. En ce qui concerne les livres, les choses étaient plus complexes. On a organisé un conseil de famille et, pour commencer, on s'est arrêté sur 3 livres. Le prince Cérébriani, les fables de Krylov et le tour du monde en 80 jours. Il a déclaré qu'il ne lirait pas ses brochures de garde blanc, mais on lui a laissé ses livres et il y a tout lieu de penser qu'il les a lus avec plaisir. Il a été dans de meilleures dispositions, il s'est calmé. Apparemment, il s'était imaginé je ne sais quoi. Peut-être espérait-il que la police allait le rechercher. Nous parcourions les journaux, mais on ne disait rien du tchéquiste disparu. Les autres représentants avaient sans doute décidé que le bonhomme avait tout simplement pris la fuite, et ils avaient préféré étouffer l'affaire. C'est à cette période d'incertitude que remonte sa tentative d'évasion, ou du moins de faire connaître sa présence au monde extérieur. Il tapait des pieds dans sa cellule, tentait sans doute d'atteindre la fenêtre, essayait de démonter les planches, essayait de cogner, mais on l'a menacé, et il a cessé de frapper. Et un jour, quand Pétia est entré seul dans sa cellule, il s'est jeté sur lui. Pétia l'a gentiment ceinturé et l'a reposé dans la baignoire. Après cet incident, il a de nouveau changé. Il est devenu tout à fait charmant, il plaisantait même, et enfin, il a essayé de nous acheter. Il a proposé une somme énorme et promis de l'obtenir par l'intermédiaire de quelqu'un. Comme cela ne changeait rien, il s'est mis à pleurnicher et puis à jurer encore plus qu'avant. Maintenant, il est dans un stade de résignation maussade qui, je le crains, ne conduira à rien de bon. On lui fait faire une promenade quotidienne dans le couloir, et deux fois par semaine, on aère la pièce en ouvrant la fenêtre. Évidemment, à cette occasion, nous prenons toutes les précautions pour qu'il ne crie pas. Le samedi, il prend un bain. En ce qui nous concerne, nous devons nous laver dans la cuisine. Le dimanche, je lui fais de brefs cours et je lui donne 3 cigarettes à fumer. En ma présence, bien entendu. Sur quoi portent ces cours ? Surtout et n'importe quoi, sur Pouchkine par exemple, ou sur la Grèce antique, mais sur la politique, rien du tout. Il est absolument privé de politique. Exactement comme si, d'une manière générale, cette chose n'existait pas au monde. Et vous savez quoi ? Depuis que je tiens un homme enfermé, depuis que je sers la patrie, je suis carrément un autre homme, fringant et heureux. Et les affaires se sont mises à mieux marcher, de sorte qu'il n'est pas si difficile de l'entretenir. Il me revient à 20 marks par mois, en comptant les dépenses d'électricité. Il fait complètement sombre dans la salle de bain, de sorte que de 8h du matin à 8h du soir, une ampoule de faible puissance brûle. Vous me demandez de quel milieu il est ? Mais comment vous dire ? Il a 24 ans, c'est un moujik, il n'a certainement pas terminé l'école, même pas celle de son village. Il a été ce qu'on appelle un honnête communiste, il n'a étudié que le béaba politique, ce qui signifie pour nous la quadrature des cercles imbéciles, voilà tout ce que je sais. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, je vais vous le montrer. Seulement, souvenez-vous. Souvenez-vous bien. Motus. Martine Martinitch alla dans le couloir. Pétia et moi, nous le suivîmes. Le vieillard, dans sa veste d'intérieur douillette, jouait les gardiens de prison. En route, il sortit la clé et il y avait quelque chose de quasiment professionnel dans la façon dont il la fit entrer dans la serrure. La serrure crépita 2 fois et Martine Martinitch ouvrit la porte. Ce n'était pas du tout une écurie sinistre, mais une salle de bain superbe et vaste, comme il en existe dans les maisons allemandes bien équipées. Une lumière électrique agréable aux yeux brûlait, protégée par un joli petit abat-jour décoré. Sur le mur de gauche luisait un miroir. Il y avait des livres sur la table à côté de la baignoire, une orange épluchée dans une petite assiette blanche et une bouteille de bière non entamée. Dans la baignoire blanche, un gaillard barbu, replet et l'œil vif, vêtu d'un peignoir de bain duveteux qui venait des épaules du maître de maison, avec des chaussons doux et chauds, était allongé sur le matelas recouvert d'un drap propre, avec un grand oreiller sous la nuque. « Alors ?» demanda Martine Martinitch en se tournant vers moi. Cela me faisait rire, je ne savais que dire. « La fenêtre était là-bas, » dit Martine Martinitch en me montrant l'endroit avec son doigt. La fenêtre, c'était exact, avait été superbement murée. Le prisonnier bâilla et se tourna contre le mur. Nous sommes sortis. Martine Martinitch a secoué le cadenas en souriant. « Il ne s'enfuira pas. Des clous, » dit-il, pour ajouter ensuite d'un air songeur, J'aimerais bien savoir tout de même combien d'années il va rester ici.
La sonnette.
Cette année s'était écoulée depuis leur séparation à Pétersbourg. Ciel, quelle cohue à la gare Nikolaïevski. Ne reste pas si près, le train va partir. Ça y est, on s'en va. Au revoir, ma chérie. Elle marcha à côté du train, grande, mince, vêtue d'un imperméable, une écharpe noire et blanche autour du cou, puis se mit à reculer comme porté par un lent courant. Recrue dans l'armée rouge, il prit part à la guerre civile dans la confusion et avec répugnance. Puis par une belle nuit, accompagné par les stridulations extatiques des grillons de la prairie, il passa du côté des Blancs. Un an plus tard, en 1920, peu de temps avant de quitter la Russie, dans la rue Chaïnaïa, cette rue raide et caillouteuse de Yalta, il rencontra par hasard son oncle, un avocat de Moscou. Eh bien oui, il y avait des nouvelles, deux lettres. Elle partait pour l'Allemagne et avait déjà obtenu un passeport. Tu as l'air en forme, mon garçon. Et finalement, la Russie lui donna congé. Un congé permanent, selon certains. Nikolaï visita l'Afrique, l'Italie et, Dieu sait pourquoi, les Canaries. Et puis encore l'Afrique, où il servit pour un temps dans la Légion étrangère. Au début, il pensa à elle souvent, puis rarement, puis de nouveau, de plus en plus souvent. Son deuxième mari, l'industriel allemand Kind, mourut pendant la guerre. Comme il possédait plusieurs immeubles à Berlin, Nikolaï se dit qu'elle ne courait aucun danger de mourir de faim là-bas. Mais que le temps passait vite, stupéfiant. Y avait-il vraiment 7 ans de passé ? Au cours de ces années, il était devenu plus robuste, plus rude, avait perdu un index et appris 2 langues, l'italien et l'anglais. La couleur de ses yeux était devenue plus claire et leur expression plus candide à cause du hâle de paysan qui couvrait uniformément son visage. Il fumait la pipe. Sa démarche, solide comme celle de tous les gens trapus, possédait maintenant un rythme remarquable. Une chose en lui n'avait pas du tout changé, son rire, accompagné toujours d'un clin d'œil et d'un calembour. Longtemps, il réfléchit en riant, en hochant la tête, puis se décida enfin à tout laisser tomber et, sans se presser, par étapes, à se rendre à Berlin. Une fois, dans un kiosque quelque part en Italie, il remarqua un journal pour émigrés russes édité à Berlin. Il écrivit au journal pour faire paraître une annonce dans la rubrique « Message personnel ». Un tel recherche une telle. Il ne reçut pas de réponse. En faisant un petit détour par la Corse, il rencontra un compatriote russe, le vieux journaliste Grouchevski, qui partait pour Berlin. Essayez de vous renseigner pour moi. Peut-être la trouverez-vous. Dites-lui que je suis en vie et que je vais bien. Mais cette source de renseignement n'apporta aucune nouvelle non plus. Il était grand temps désormais de prendre Berlin d'assaut. Là-bas, sur place, les recherches seraient plus simples. Il eut bien du mal à obtenir un visa allemand et il commençait à être à court d'argent. Or, d'une façon ou d'une autre, il finirait bien par y arriver. Et il arriva. Vêtu d'un trench coat et coiffé d'une casquette à carreaux, petit et large d'épaule, une pipe entre les dents et une valise fatiguée dans sa main valide, il sortit sur la place en face de la gare. C'était moche de sa part d'avoir attendu si longtemps. Il aurait pu venir plus tôt. Mais ces années, ce vagabondage magnifique à travers le monde, les petits boulots obscurs et mal payés, les occasions saisies et abandonnées, l'exaltation de la liberté, cette liberté dont il avait rêvé dans son enfance, c'était du vrai Jack London. C'était déjà le soir. et dans le crépuscule, une belle lumière mandarine avait envahi les différents étages vitrés d'un grand magasin immense, lorsque Nikolaï remarqua, sur l'un des côtés de la porte d'entrée, une petite plaque blanche où était inscrit I.S. Weiner, dentiste de Petrograd. Nikolaï hésita devant la porte au moment de tirer la sonnette, se rappelant que c'était dimanche. Il réfléchit encore et sonna quand même. Il y eut un grésillement dans la serrure et la porte céda. Il monta un escalier. Une bonne ouvrit la porte. « Non, le docteur ne reçoit pas aujourd'hui. »« Mes dents vont bien, » rétorqua Nikolaï dans un allemand lamentable. « Le docteur Weiner est un vieil ami à moi. Je m'appelle Galatov, je suis sûr qu'il se souvient de moi. » « Je vais lui dire, » dit la bonne. Quelques instants plus tard, un homme d'un certain âge, portant un veston à brandebourg en velours, sortit dans le vestibule. Il avait un teint carotte et paraissait très aimable. Après avoir salué d'un ton jovial, il ajouta en russe « Je ne me souviens pas de vous, pourtant vous devez faire erreur. » Nikolaï le regarda et s'excusa « Je crains bien que oui. Je ne me souviens pas de vous moi non plus. » Je m'attendais à trouver le docteur Weiner qui habitait dans la rue Moïka à Pétersbourg avant la Révolution, mais je ne suis pas tombé sur le bon, excusez-moi. Ah, ce doit être un de mes homonymes, un homonyme commun. J'habitais sur l'avenue Zagorodny. Nous avions tous l'habitude d'aller chez lui, expliqua Nikolaï, alors je pensais... Vous voyez, j'essaie de retrouver une certaine dame, une madame Kind. C'est le nom de son second mari. Weiner se mordit la lèvre, détourna le regard d'un air absorbé, puis s'adressa de nouveau à lui. « Attendez un peu, je crois me souvenir d'une madame Kind qui venait me voir ici il n'y a pas longtemps et qui avait aussi l'impression... On va le savoir dans une minute. Entrez dans mon bureau, je vous prie. » Le bureau demeura flou aux yeux de Nikolaï. Il ne pouvait détacher son regard de la calvitie impeccable de Weiner tandis qu'il se penchait sur son livre de rendez-vous. « On va le savoir dans une minute, » répéta-t-il en parcourant les pages avec ses doigts. « On va le savoir dans une petite minute, on va le savoir dans... »« Nous y voilà !»« Frau Kind, plombage en or et autre intervention que je n'arrive pas à voir. Il y a une tache là. »« Et quel est le prénom et le patronyme ?» demanda Nikolaï, qui, en s'approchant de la table, faillit faire tomber un cendrier avec sa manchette. C'est dans le livre aussi. « Olga Kirillovna. »«
C'est ça !»
dit Nikolaï avec un soupir de soulagement. « L'adresse est Planerstrasse 59, chez Bab, » dit Weiner en claquant les lèvres, et il copia rapidement l'adresse sur une feuille détachée. « Deuxième rue à partir d'ici. Voilà, ravi de vous rendre ce service. Est-ce une parente à vous ?»« Ma mère, » répondit Nikolaï. En sortant de chez le dentiste, il reprit son chemin d'un pas quelque peu accéléré. Il fut étonné par cette découverte comme on peut l'être par un tour de cartes. Il n'avait jamais imaginé un seul instant, pendant qu'il se rendait à Berlin, qu'elle pouvait être morte depuis longtemps, ou qu'elle avait pu déménager pour une autre ville. Et pourtant, le tour avait réussi. Weiner s'était révélé être un autre Weiner, et pourtant, le destin avait trouvé une solution. Merveilleuse ville. Merveilleuse pluie. Comment l'accueillera-t-elle ? Tendrement ? Tristement ? Ou avec un calme parfait. Elle ne l'avait pas gâté lorsqu'il était enfant.
« Je te défends de traverser le salon en courant pendant que je joue du piano. »
Au fur et à mesure qu'il grandissait, il avait de plus en plus souvent le sentiment qu'elle n'avait pas tellement besoin de lui. Maintenant, il essayait de se représenter son visage, mais ses pensées refusaient obstinément de se colorer, et il était totalement incapable de constituer une image optique vivante de ce qu'il concevait dans son esprit. Sa longue silhouette mince, qui paraissait d'un assemblage fragile, ses cheveux noirs, striés de mèches grises sur les tempes, sa grande bouche pâle, le vieil imperméable qu'elle portait la dernière fois qu'il l'avait vue, et cette expression amère, fatiguée, d'une femme vieillissante, qu'elle semblait avoir toujours eue sur le visage, même avant la mort de père, l'amiral Galatov, qui s'était tué d'un coup de revolver peu de temps avant la Révolution. Numéro 31. Encore 8 maisons. Soudain, il se rendit compte qu'il était ému d'une façon insupportable, indécente. Il s'arrêta juste avant le numéro 59, sortit sa pipe et une blague à tabac en caoutchouc, bourra le fourneau lentement, consciencieusement, sans en faire tomber un seul grain, et d'un pas lent et ferme, se dirigea vers la maison. Il chercha la sonnette à tâtons dans le noir et sonna. Puis il retira sa pipe d'entre ses dents et attendit, sentant son sourire lui déchirer douloureusement la bouche. Puis il entendit une serrure, un verrou claquer deux fois et la porte, comme poussée par un vent violent, s'ouvrit toute grande. Il faisait tout aussi sombre dans l'antichambre que dans l'escalier, et de cette obscurité s'échappa une voix joyeuse et sonore. « Il n'y a plus de lumière dans tout le bâtiment, c'est affreux !» Et Nikolaï reconnut tout de suite ce ton emphatique, ce qui lui fit reconstituer instantanément et jusqu'au moindre trait la personne qui se tenait là maintenant, toujours dissimulée dans l'obscurité, sur le pas de la porte. « C'est sûr qu'on ne voit rien, » dit-il en riant, et il s'avança vers elle. Elle poussa un cri, comme si une main l'avait frappée à toute volée. Dans l'obscurité, il trouva ses bras, ses épaules, et se cogna contre quelque chose, probablement le porte-parapluie. « Non, non, ce n'est pas possible, » répétait-elle sans cesse d'une voix rapide en reculant. « Calme-toi, mère, calme-toi un instant, » dit-il, se heurtant de nouveau contre quelque chose. Cette fois, c'était la porte d'entrée entrouverte qui se referma en claquant très fort. « Ce n'est pas possible. Nicky. Nick. » Il embrassait l'aveuglette sur les joues, les cheveux, partout, incapable de rien voir dans l'obscurité, mais par une sorte de vision intérieure, la reconnaissant tout entière des pieds à la tête. Et une seule chose en elle avait changé, et cette nouveauté même lui rappela inopinément sa plus tendre enfance quand elle jouait du piano, une odeur forte et élégante de parfum, comme si ces années intermédiaires n'avaient pas existé, les années de son adolescence à lui, de son veuvage à elle, ces années où elle ne mettait plus de parfum et se fanait tristement. C'était comme si rien de tout cela n'était arrivé, et qu'il était revenu sans transition d'un exil lointain en enfance. « C'est toi ? Tu es venu. Tu es vraiment là, » bredouillait-elle, pressant ses lèvres douces contre lui. « C'est bon. C'est comme ça que ça doit être. » « Il n'y a pas de lumière quelque part ?» interrogea gaiement Nikolaï. Elle ouvrit une porte de communication et dit tout excitée, « Si, entre. J'ai allumé ici quelques bougies. »« Eh bien, laisse-moi te regarder, » dit-il en pénétrant dans la lumière vacillante des bougies et en contemplant sa mère avec avidité. Les cheveux noirs avaient été décolorés et avaient une teinte paille, très claire. « Eh bien, tu ne me reconnais pas ?» demanda-t-elle en aspirant nerveusement une bouffée d'air. Puis elle ajouta précipitamment, « Ne me fixe pas comme cela. Alors raconte-moi ce qu'il y a de neuf. Mon Dieu, comme tu es bronzé. Oui, dis-moi tout. » Les cheveux blonds, courts, et son visage était maquillé avec une sorte de soin atroce. Le sillon humide d'une larme s'était pourtant creusé dans le rose du phare. Ses cils lourds de mascara étaient mouillés. Et la poudre sur les ailes de son nez avait viré au violet. Elle portait une robe bleue, satinée, fermée au cou, et tout en elle était étrange, agité et effrayant. « Tu attends probablement de la visite, mère, » fit observer Nikolaï, et ne sachant pas très bien quoi dire ensuite, il se débarrassa de son manteau d'un geste énergique. Elle s'écarta de lui, et s'approcha de la table qui était mise pour un repas et étincelait de tous ses cristaux dans la demi-obscurité. Puis elle revint vers lui et, machinalement, regarda dans le miroir son image voilée d'ombre. « Tant d'années ont passé. Mon Dieu, j'en crois à peine mes yeux. Ah oui, j'ai des amis qui viennent ce soir, je vais les décommander. Je vais leur téléphoner, je vais faire quelque chose. Il faut que je leur dise de ne pas venir. Oh, grand Dieu !» Elle se pressa contre lui, le palpant, pour s'assurer qu'il était réel. « Calme-toi, mère, qu'est-ce qui t'arrive? Tu exagères. Asseyons-nous quelque part. Comment vas-tu? La vie est-elle bonne pour toi ?» Et, redoutant sans savoir pourquoi les réponses à ses questions, il se mit à parler de lui, de cette façon brusque et nette qui était la sienne, tirant sur sa pipe et essayant de noyer son étonnement dans les mots et la fumée. Il s'avéra finalement qu'elle avait vu son annonce, avait été en contact avec le vieux journaliste et avait été sur le point d'écrire à Nikolaï. Toujours sur le point. Maintenant qu'il avait vu son visage déformé par le maquillage et ses cheveux teints, il lui semblait que sa voix non plus n'était plus la même. Et pendant qu'il décrivait ses aventures sans s'interrompre un seul instant, il parcourait du regard la pièce palpitante, à demi éclairée, le décor affreusement bourgeois, tandis que ses yeux vagabondaient. Il s'arrêta aussi sur quelque chose qu'auparavant il n'avait vu qu'en passant, cette table. Une table mise pour deux, avec des liqueurs, une bouteille d'asti, deux flûtes et un énorme gâteau rose décoré d'un cercle de petites bougies qui n'étaient pas encore allumées. Bien sûr, j'ai bondi immédiatement de ma tente et imagine un peu ce que c'était. Allez, devine. Elle parut sortir d'une transe et lui lança un regard effaré. Elle était à côté de lui sur le divan à demi couché, serrant ses tempes entre ses mains et ses bas couleur pêche brillaient d'un éclat insolite. Tu m'écoutes, mère ? Eh bien, oui, je t'écoute. Et à ce moment-là, il remarqua autre chose. Elle était étrangement absente, comme si, n'écoutant pas ses paroles, elle considérait une chose funeste qui venait de loin, menaçante et inévitable. Il poursuivit son récit d'un ton enjoué, mais s'arrêta soudain de nouveau et demanda « Ce gâteau, il est en l'honneur de qui ? Il a l'air bien bon. » Sa mère lui répondit avec un sourire distrait « Oh, c'était pour faire un petit effet. Je t'ai dit que j'attendais de la visite. » « Ça m'a terriblement fait penser à Pétersbourg, » dit Nikolaï. « Tu te souviens qu'un jour tu t'étais trompé et avais oublié une bougie ? Je venais d'avoir 10 ans, mais il n'y avait que 9 bougies. Tu escamotas mon anniversaire. J'ai hurlé tout ce que je savais. » « Et combien y en a-t-il ici ? » ?»« Oh, quelle importance !» s'écria-t-elle. Et elle se leva comme si elle voulait l'empêcher de voir la table. « Pourquoi ne me dis-tu pas plus tôt l'heure qu'il est ? Il faut que je téléphone pour annuler la soirée. Il faut que je fasse quelque chose. 7h15, dit Nikolaï. Ah, trop tard, dit-elle en élevant de nouveau la voix. C'est bon, au point où on en est, ça n'a plus d'importance. Ils se turent tous les deux. Elle reprit sa place. Nikolaï se disait qu'il devait l'embrasser, se blottir contre elle, lui demander « Écoute, mère, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Allons, parle. » Il jeta de nouveau un coup d'œil à la table étincelante et compta les bougies autour du gâteau. Il y en avait 25. 25. Et lui qui avait déjà 28 ans. « Je t'en prie, n'examine pas la pièce comme ça, » dit sa mère. « Tu as l'air d'un vrai détective. C'est un affreux taudis. J'irais volontiers vivre ailleurs, mais j'ai vendu la villa que Kin m'a laissée. » Tout à coup, elle sursauta. « Attends un peu, qu'est-ce que c'était ? C'est toi qui as fait ce bruit ?» « Oui, répondit Nikolaï, je suis en train de vider ma pipe. »« Mais dis-moi, tu as encore assez d'argent au moins. Tu n'as pas trop de mal à joindre les deux bouts ?» Elle s'appliqua à remettre en place un ruban sur sa manche et parla sans le regarder. « Oui, naturellement. Il m'a laissé quelques titres étrangers, un hôpital et une très vieille prison. Une prison. Mais je te préviens que j'ai à peine de quoi vivre. Pour l'amour du ciel, cesse de taper avec cette pipe. Je te préviens que je ne peux pas... Tu comprends, Nick. Ça me serait difficile de t'entretenir. Mais qu'est-ce que tu racontes là, mère ? S'exclama Nikolaï. Et à cet instant précis, tel un soleil stupide sortant de derrière un nuage tout aussi stupide, la lumière électrique jaillit brusquement du plafond. Là, on peut éteindre ses cierges maintenant. On se serait cru enfermé dans le mausolée de Mostaga. Tu sais, j'ai un peu d'argent liquide en réserve, et quoi qu'il en soit, j'aime être libre. Je suis comme une sorte d'oiseau. Viens, assieds-toi. Cesse de tourner en rond dans la pièce. Grande, mince, lumineusement bleue, elle s'arrêta devant lui, et alors, en pleine lumière, il vit combien elle avait vieilli. Avec insistance, les rides sur ses joues et son front ressortaient sous le maquillage et ses affreux cheveux décolorés. « Tu as débarqué si soudainement, » dit-elle, et tout en se mordant les lèvres, elle consulta une petite pendule placée sur l'étagère. « Tu es tombé comme la neige d'un ciel sans nuages. Elle avance ? Non, elle s'est arrêtée. J'ai de la visite ce soir, et voilà que tu arrives. C'est une situation idiote. C'est absurde, mais ils vont venir, ils vont voir que ton fils est arrivé, et rapidement, ils s'éclipseront. » Et avant que la soirée s'achève, toi et moi, on ira dans un music-hall et on soupera quelque part. Je me rappelle avoir vu un spectacle africain. Ça, c'était quelque chose. Imagine-toi, environ 50 noirs et un assez grand, de la taille de, disons... La sonnette retentit très fort dans le hall d'entrée. Olga Kirillovna, qui s'était perchée sur le bras d'un fauteuil, sursauta et se redressa. « Attends, j'y vais, » dit Nikolaï en se levant. Elle le retint par la manche. Les traits de son visage se contractaient. La sonnette s'arrêta. Le visiteur attendit. « Ce doit être tes invités, » dit Nikolaï. « Tes 25 invités, il faut les faire entrer. » Sa mère fit un mouvement brusque de la tête et se mit à écouter attentivement. « Ce n'est pas bien, » commença à dire Nikolaï. Elle tira sur sa manche tout en chuchotant. « Je t'interdis, je ne veux pas que... Je t'interdis !» La sonnette retentit de nouveau avec insistance et d'un ton irrité cette fois. Et cela pendant longtemps. « Laisse-moi y aller, » dit Nikolaï. « C'est stupide. Quand quelqu'un sonne à la porte, tu dois répondre. De quoi as-tu peur ?»«
Je t'interdis, tu entends ?» répéta-t-elle en étreignant convulsivement sa main. « Je t'en supplie. Niki, ne fais pas ça !»
La sonnette s'arrêta. Suivit alors une série de coups vigoureux donnés, semblait-il, par le solide pommeau d'une canne. Nikolaï se dirigea résolument vers le hall d'entrée. Mais avant qu'il y arrive, sa mère l'avait attrapé par les épaules et essayait de toutes ses forces de le tirer en arrière, ne cessant de murmurer « je t'interdis pour l'amour du ciel !» La sonnette retentit de nouveau, brève, rageuse. « C'est ton affaire !» dit Nikolaï en riant, et enfonçant ses mains dans ses poches, il traversa toute la pièce. « C'est un vrai cauchemar » pensa-t-il, et il rit de nouveau. La sonnette s'était tue. Tout était tranquille. Apparemment, le sonneur lassé était parti. Nikolaï alla jusqu'à la table, contempla le splendide gâteau avec son glaçage luisant et ses 25 bougies qui lui donnaient un air de fête, et les deux verres à vin. Juste à côté, il y avait une petite boîte blanche en carton qui avait l'air de se cacher à l'ombre de la bouteille. Il la prit et souleva le couvercle. Elle contenait un étui à cigarettes en argent, tout neuf et assez voyant. C'est donc cela, dit Nikolaï. Sa mère, qui était à demi couchée sur le divan, le visage enfoncé dans un coussin, était secouée de sanglots. Par le passé, il l'avait souvent vue pleurer, mais alors elle pleurait d'une façon bien différente. À table, par exemple, elle pleurait sans détourner la tête, se mouchait très fort et parlait. Alors que maintenant, elle pleurait comme une petite fille, allongée là dans un tel abandon. Et il y avait quelque chose de si gracieux dans la courbure de son dos et dans la façon dont l'un de ses pieds, chaussé d'une pantoufle de velours, touchait le plancher. On aurait presque pu penser que c'était une jeune femme blonde en train de pleurer. Et son mouchoir chiffonné traînait sur le tapis exactement comme il se doit dans cette jolie scène. Nikolaï poussa un grognement russe et s'assit près d'elle sur le rebord du divan. Il grogna de nouveau. Sa mère, qui se cachait toujours le visage, dit à travers le coussin « Ah, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ? Rien qu'un an. » « Comment pouvais-je le savoir ? » dit Nikolaï. « Tout est fini maintenant, » dit-elle en sanglotant. Et sa chevelure légère sursauta. « Tout est fini. » J'aurai 50 ans au mois de mai. Le fils, adulte, vient voir sa vieille mère. Et pourquoi fallait-il que tu viennes juste maintenant, ce soir ? Nikolaï mit son manteau, que contrairement à la coutume européenne, il avait simplement jeté dans un coin, sortit sa casquette d'une poche et se rassit à côté d'elle. « Demain matin, je vais reprendre ma route, » dit-il tout en caressant la soie bleue et luisante de l'épaule de sa mère. « J'ai grande envie de monter vers le nord maintenant, vers la Norvège peut-être, ou encore de prendre la mer pour aller un peu chasser la baleine. Je t'écrirai. Dans un an ou deux, on se reverra, et peut-être qu'alors je resterai plus longtemps. Ne m'en veux pas si j'ai la bougeotte. » Bien vite, elle l'embrassa et appuya une joue humide contre son cou. Puis elle étreignit sa main et poussa soudain un cri d'étonnement, arraché par une balle, dit Nikolaï en riant. « Au revoir, chère mère. » Elle tâta le bout lisse de son doigt coupé et l'embrassa prudemment, Puis elle passa le bras autour de son fils et le raccompagna jusqu'à la porte. « Je t'en prie, écris souvent.
Pourquoi ris-tu ?
Je ne dois plus avoir de poudre sur la figure, n'est-ce pas ?» Et la porte s'était à peine refermée derrière lui qu'elle courait, dans un bruissement de soie bleue, vers le téléphone.
Deux nouvelles de Vladimir Nabokov. Éric Genovese lisait « Ici, on parle russe ». Traduite par Bernard Kreise, édité chez Gallimard. François Martouret lisait « La sonnette », traduite par Maurice et Yvonne Couturier, édité chez Julliard. Prise de son, mixage, Philippe Thibault, Jean-Claude Gauthier. Assistant, Jean-Philippe Navarre. Réalisation, Anne Lemaître.
Les nouvelles de Vladimir Nabokov ont été diffusées pour la première fois sur France Culture le 28 avril 1999. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.